Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Ce cercle se réunit une fois par mois pour échanger autour d'un livre. Confluence, c'est une association qui a été créée par Maurice Petit en 1990. Elle se concentre sur les activités de création, d'organisation et la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence, c'est le festival littéraire Lettres d'automne, dont la 23e édition, l'année dernière, a été consacrée à Albert Camus, dont on avait célébré en 2013 le centenaire de la naissance. Cette année, l'invité des Lettres d'automne, qui se déroulera du 17 au 30 novembre, c'est Hubert Haddad. C'est autour d'un livre de cet auteur, qui s'appelle « Le peintre d'éventail », que nous allons aujourd'hui échanger nos impressions de lecture. Autour de la table sont réunis, alors honneur à l'homme puisqu'il est le seul aujourd'hui, Jean,
oui.
Et Jacques, quand même.
<C'est vrai. rire> Geneviève.
Françoise.
Monique.
Et Florence.
Et donc, ils échangeront leurs impressions de lecture. Quelques mots sur Hubert Haddad. Hubert Haddad est l'auteur d'une œuvre très importante qui est portée par une attention de tous les instants aux ressources prodigieuses de l'imaginaire. Il est né à Tunis, en 1947, d'un père tunisien et d'une mère d'origine algérienne. Après avoir vécu à Sfax, Bonn et Tunis, ses parents émigrent à Paris en 1950. Il suit l'exil de ses parents quelques années plus tard à Belleville, Ménilmontant, puis dans les banlieues populaires de Paris. Pour lui, la poésie a vite pris toute la place, violente, exclusive, multiple, dans ses investigations, tant verbales que plastiques. Écrivain, Hubert Haddad commence à publier à la fin des années 60, d'abord dans des revues. Il a fondé lui-même plusieurs revues de littérature, comme Le Point d'être, Revue littéraire ou Le Horla. Et très vite, il investit tous les genres littéraires, à commencer par la poésie, et puis avec la nouvelle et le roman qui tiennent une grande part dans sa production. Parmi les nombreux titres qu'il a publiés, on peut signaler le recueil « Nouvelles du jour et de la nuit », le roman Palestine, qui a eu le prix Renaudot Poche, qui a eu le prix des 5 continents de la francophonie aussi. Deux volumes foisonnants alors du nouveau magasin d'écriture. Ce sont des livres assez épais, tout à fait étonnants. Un livre très remarqué qui est Le peintre d'éventail, dont nous allons parler aujourd'hui, qui a eu le prix Louis Guillou, qui a eu le grand prix aussi de la Société des gens de lettres, de littérature. Et plus récemment, il a publié en 2014 la théorie de la vilaine petite fille. À cette occasion, d'ailleurs, une rencontre a eu lieu avec lui à la Femme Renard il y a quelques semaines. L'univers mouvant d'Hubert Haddad gravite de longue date autour d'une idée fixe, redonner une place en littérature à l'imaginaire et à ses pouvoirs infinis. Alors aujourd'hui, donc, nous parlons du peintre d'éventail, qui est son avant-dernier roman. En voici un peu la présentation. C'est au fin fond de la contrée d'Arora, donc on est au Japon, au nord-est de l'île d'Honshu, que Matabeille se retire pour échapper à la fureur du monde. Dans cet endroit qui est perdu entre les montagnes et le Pacifique, se trouve la paisible pension de Dame Isson. Isson, on dit, ou Isson ?
Ison,
très bien. Dont Matabeille apprend peu à peu à connaître les habitués. Ces pensionnaires sont tous des personnages très singuliers et assez fantasques. Attenant à l'auberge, se déploie un jardin hors du temps. Insensiblement, Matabeille s'attache au vieux jardinier et découvre en lui un extraordinaire peintre d'éventail. Il devient le disciple dévoué de Maître Ozaki. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre, Jean, peut-être ?
Alors, ce qui m'a séduit, je peux dire que c'est d'abord l'audace de l'écrivain, parce que écrire, quand on n'est pas japonais, un roman qui essaie de rendre de l'intérieur ce que c'est que l'âme, enfin, ou l'art du Japon, c'est une entreprise hardie, me semble, et risquée. Et il me semble que de ce point de vue-là, Hubert Haddad réussit. Il réussit à éviter les risques dans lesquels on peut tomber quand on évoque un pays étranger. Le risque, c'est, alors par rapport au Japon, c'est l'exotisme un peu trop pittoresque, hein, à la Pierre Loti. Ou bien le documentaire, hein, c'est-à-dire accumuler les détails précis qui finissent par lasser le lecteur. Là, il me semble que il a évoqué le Japon, enfin la mentalité japonaise de l'intérieur, et de ce point de vue-là, il me semble que c'est assez réussi.
Geneviève.
Oui. Et moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean. Nous avions, lorsque nous avons discuté ensemble, été un peu troublés par le fait que chaque roman chez Hubert Haddad nous expatrie dans un lieu différent, et on se demandait si c'était pas un peu artificiel de passer comme ça de la Palestine au Japon. Et la rencontre que nous avons eue avec lui à La Femme Renard nous a permis de comprendre vraiment sa façon de faire, tunisien d'origine, mais au fond un expatrié, la langue seule et son pays natal, sa terre d'élection. Et donc il nous a bien expliqué que ces voyages, les passages nombreux qu'il fait au-delà des frontières, qui l'amènent à choisir un sujet qui est de l'ordre de l'humain, situé donc dans un cadre particulier, mais c'est le thème quand même qui l'emporte. Et j'ai beaucoup aimé cette présentation, ça... tout de suite diminuer les soupçons que l'on pouvait avoir de récupération de sujets étrangers.
Oui.
Voilà. Il a parlé d'hommes sans identité, il me oui. semble.
Et c'est...
Sans territoire.
Et oui. vraiment, c'était la oui. première chose qu'il ait dite sans oui. même qu'on évoque ce point. Oui. Donc, homme citoyen du monde et oui. donc situant dans un endroit ou un autre selon... qu'un sujet lui est proposé.
Oui.
Et bizarrement, il n'a pas beaucoup écrit sur la Tunisie. Hein, étrangement.
Mais en fait, il a, je crois, quitté la Tunisie quand il était très jeune.
C'est vrai.
Donc, il n'a pas été imprégné par...
C'est vrai, mais
spécialement
bon,
par ce
on
pays.
Pourrait dire quand même que oui. familialement, il doit y avoir un coin de désert dans sa tête, hein, certainement.
Oui, voilà. Mais en fait, si on pense un peu, le Japon, c'est un décor de théâtre. Finalement, c'est pas fondamental dans ce roman. Enfin, il parle du Japon, mais quand on lit ce qu'il dit de le Japon, on le sait, nous. Donc, c'est pas vraiment, il a pas voulu écrire sur le Japon, me semble-t-il, mais plus sur la fragilité d'une harmonie sur la Terre, enfin, sur le Japon, imaginé, enfin, illustré par ce jardin qui doit être parfait et qui, au moindre séisme, à la moindre tempête, peut être détruite aussi. C'est donc une image de l'être humain, non seulement de la nature, mais de l'être humain. Je trouve que c'est presque métaphysique, ce livre, et j'y ai pensé plus tard, parce qu'au début, j'étais un peu comme vous, assez critique. Mais là, j'ai apprécié cette construction de l'harmonie qui est immédiatement et inéluctablement suivie d'une disharmonie, d'une rupture, et une reconstruction permanente de ce cycle.
Florence.
Oui, on voit bien que l'humain, c'est vraiment le fil transversal de son œuvre. Et moi, j'ai lu plusieurs de ses livres, Opium Poppy, par exemple, qui se passe lui en Afghanistan. Et c'est aussi, effectivement, dans un cadre qui pourrait être un autre, un travail sur l'humain. Et moi, ce livre m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et je l'avais dit dès la première fois parce que, il traite de sujets, en fait, qui me tiennent énormément à cœur. Et en particulier de la question de l'œuvre humaine. Et l'œuvre humaine qui peut être tout ce qu'il y a de plus merveilleux et aussi tout ce qu'il y a de pire et de dévastateur. Et on a les deux pôles et ça, c'est très intéressant, je trouve. Bon, avec la partie jardin, comme vous dites, très méticuleusement appliquée, avec une espèce d'emprise sur la nature, et puis à un moment donné, la nature aussi, qui reprend ses droits lors de la fameuse catastrophe. Et puis j'ai été aussi extrêmement touchée par tout ce qui est de la transmission. Voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant dans ce livre, je trouve, puisqu'il y a une transmission sur trois générations, en définitive. Voilà, on pourra en reparler peut-être.
Qui est la sauvegarde de l'art, en fait, de voilà, ce que fait l'homme.
C'est l'espoir. C'est l'espoir de l'homme. Et la sauvegarde, de l'homme. Je lirai
alors,
tout à l'heure.
Peut-être au début, on pourrait dire que il y a malgré tout. Donc c'est un texte qui est poétique, extrêmement travaillé, mais c'est un récit tout de même. Donc le personnage principal s'appelle Matt Abeille et il est amené dans ce lieu justement par un coup du sort, par il a envie de se retirer, de s'exiler, de s'éloigner du fait d'un accident qui est intervenu. Il a causé en effet la mort d'une jeune femme, mais le mystère demeure, on ne sait trop si cette jeune femme s'est précipitée sur son véhicule ou si c'est vraiment un accident. Il n'empêche que ça crée un trouble chez le personnage qui va être amené ainsi à s'exiler. Cette mort qui trouble est un peu le point de départ quand même. On s'est dit extrêmement rapidement et on pourrait passer presque par-dessus cet événement rapidement. Je crois que c'est assez fondateur. De même que c'est associé aussi à une première catastrophe. Hein. Je peux lire au début ce qui nous est dit. Il n'était que le meurtrier. L'enquête de police, du reste, ne l'incrimina pas. La victime traversait une voie rapide, hors des passages autorisés. On l'interrogea néanmoins sur le détail de l'accident. N'avait-elle pas une attitude singulière? Ne s'était-elle pas jetée au devant du véhicule? Quelques jours plus tard, la terre tremblait à Kobechi, porte des esprits ouverte sur un abîme. Après le séisme, parti sur l'inspiration d'une nuit, il ne s'était plus manifesté à quiconque. Personne, en fait, ne s'inquiétait de lui à Kobe comme à Kyoto. Voilà, il y a une porte qui se ferme et une vie nouvelle qui commence pour lui. Mais on peut penser que c'est tout à fait symbolique, ce ton funèbre qu'il y a au début. C'est une réflexion sur la mort, sur la finitude que l'auteur propose au lecteur.
Oui, d'ailleurs, ça sera une obsession permanente chez le personnage pendant tout le roman, finalement.
Voilà.
Cette idée que il a été la cause peut-être indirecte, mais en tout cas d'une mort.
Oui. Mm-hmm.
Et il parlera aussi de réparation à la fin. Mm-hmm. Et j'ai l'impression d'ailleurs que tout ce qu'il fait vis-à-vis des victimes de la catastrophe, c'est une sorte de réparation. Oui, moi j'ai été frappée par le thème de la fidélité, de la transmission dans ce récit. Et tout cela se noue dans la pension de Damison. C'est elle qui a conservé le protégé de l'ancien propriétaire, qui est le peintre Ozaki. Elle ne l'a pas renvoyé quand elle a acheté la pension. Et c'est elle qui, quand il meurt, va accomplir les rites funéraires, secondée par Aïcha, une vieille fille d'origine coréenne très solitaire. Un petit extrait. Lorsque tomba le soir, Damison restait seul, humecta les lèvres blanchies d'Ozaki avec un peu d'eau de la fontaine et lui souhaita un heureux voyage. Consciente qu'aucune famille n'assisterait son jardinier, elle s'employa à la décoration de l'oreiller, disposant les fleurs sur la table basse ainsi qu'un brûleur d'encens et une bougie selon l'usage. Aussi veillerait-elle dans cette attente avec en mémoire rompue cette proximité faite de gestes entrevus, de saluts discrets dans les allées, de bruissements d'outils et de floraisons. Et de même, quand Damison aura disparu avec Aïcha, toutes deux victimes de la catastrophe, c'est Matt Abeille qui va accomplir vis-à-vis d'elle les mêmes rites funéraires qu'il avait vu donc faire à Damison.
C'est lui qui accomplira l'office funèbre, il dégagera le corps des décombres, ensuite il les déterrera et il les amènera au crématorium et ensuite il déposera leurs cendres auprès du vieux châtaignier. Et il me semble qu'il accomplit là une œuvre de fidélité.
Mmh. Oui, mais alors il y a quelque chose, là, on n'a pas encore parlé du principal. Enfin, du principal, c'est que ce peintre, celui qui décède en premier, Ozaki, qui est un maître, en fait, il s'occupe du jardin, il l'entretient contre vents et marées, mais il peint des éventails. On l'a pas encore dit, ça, il le peint et il le découvre plus tard, et il essaye sur ces éventails, si on a bien compris, de rendre l'âme du jardin par la peinture ou par des petits poèmes, en utilisant très peu de couleurs, trois couleurs. Donc c'est, disons, l'essence profonde de la nature qui tente, enfin, au long de sa vie, de rendre sur ses éventails par sa peinture. Donc c'est ça aussi l'âme du livre, c'est la préservation de ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, c'est-à-dire l'art de la création.
Oui.
Donc Matabé, il y a donc le premier niveau, c'est ce vieux maître qui décède, dont on sait presque rien, dont on connaît absolument pas son passé, alors que dans la pension, il y a que des êtres qui sont poursuivis gravement par le destin. Matabé qui se sent responsable, Damuson qui est une ancienne prostituée. Il y a un couple d'amoureux, d'amants qui viennent. Enfin, c'est toujours des personnages en dehors qui peuvent avoir un passé pas forcément tout à fait moral. Et puis après intervient un plus jeune. Il y a trois niveaux de. Il y a le peintre Ozaki, Matabé, qui va œuvrer, et le plus jeune qui va un peu détruire toute cette harmonie. Et qui va passer et qui va raconter l'histoire.
Qui va être celui qui transmet.
Il y a trois niveaux de lecture.
J'ai justement un petit extrait qui illustre tout à fait ce qu'on vient de dire au sujet de la transmission à travers ces fameux éventails. Le manuel du parfait jardin de Maître Ozaki se nichait donc, dessins et poèmes, dans les pliures de ces trois lots d'éventails. Après l'enseignement oral, indispensable, Matabei découvrit ainsi l'enseignement réservé aux seuls initiés posthumes. Chaque éventail ouvert était tout à la fois une page du secret et un coup de vent dans les bonheurs du jardin. En même temps, errer de pied ferme entre les ruisselets et les rochers lui donnait à comprendre toute l'adresse du vieux peintre. C'était un double mouvement, une danse permanente entre l'atelier et l'enclos enchanté. Jouer des éventails devint le mode d'étude le plus complet. Fort les aléas de l'interprétation, tout ou presque était écrit de l'art des saisons, de l'univers et des mondes miniatures. Voilà, pour illustrer ce que
vous êtes bien sur CFM et vous écoutez aujourd'hui une émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Cinq lecteurs sont réunis aujourd'hui pour vous parler du peintre d'éventail d'Hubert Haddad. Hubert Haddad qui sera l'invité des Lettres d'automne qui se dérouleront en novembre prochain. Je voulais vous signaler aussi que ce livre, Le peintre d'éventail, était un des cinq livres qui avait été sélectionné pour le prix du lycée Michelet de cette année. C'est pas lui qui a obtenu le prix du lycée Michelet, mais je voudrais juste vous dire un peu quelles ont été les réactions des lecteurs, puisqu'il y a eu un jury qui s'est tenu. Certains ont trouvé que l'histoire était un peu compliquée et ne sont pas rentrés dedans. Alors vous nous direz ce que vous en pensez. Ceux qui ont adhéré en quelque sorte au livre ont été sensibles à la poésie du livre. Ils ont trouvé que c'était très original. Ils ont été très sensibles à la transmission des savoirs. Ils ont trouvé que c'était fort bien rendu. Aussi à la possibilité de se reconstruire, cette espèce de résilience qui existe chez les personnages. Voilà, malheureusement, ils n'ont pas entraîné l'ensemble de leurs camarades. C'est un autre livre qui a eu le prix cette année. C'est le livre profane de Jeanne Benhamer. Alors, est-ce que vous avez éprouvé les uns ou les autres des difficultés à rentrer dans le livre, à trouver que l'histoire était un peu compliquée ou pas ?
Enfin, Il me semble que techniquement, il est très bien fait, le livre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance très, très habile, très habilement organisée entre le début et la fin. Hein. Et ensuite, chaque chapitre, très court finalement, hein, se déploie un peu comme un éventail, si on veut.
Voilà.
Et il me semble que de ce point de vue-là, enfin, les choses sont, non, ne sont pas compliquées à comprendre.
Non, non.
Il me semble que c'est intéressant de relire ce livre.
Oui.
Parce que, voilà. Parce que des choses qui s'expliquent bien à la fin, sont en fait en filigrane dès le début.
Exactement.
Oui. Et quand on le lit la première fois, on n'y prête pas suffisamment attention. Oui. Et à la relecture, ça saute aux yeux. Et c'est beaucoup plus intéressant encore.
Oui, oui. Voilà.
Alors, quand on parle de relire, c'est pas un livre de 2000 pages, hein. C'est un livre de 180 pages. Donc, effectivement, on peut le lire et le relire quelques temps après, sans y passer trop de temps. Mais je crois effectivement qu'à la relecture, on découvre beaucoup de choses.
Non, mais peut-être nouvelles. Aussi ces jeunes, enfin, comme eux, ce sont des noms japonais. Et c'est assez difficile quand on pénètre un livre japonais. Il semble que tous les noms se ressemblent. Alors peut-être que c'est ça aussi qui arrête.
Il y a eu ça, ils ont trouvé que l'histoire était un peu compliquée. Enfin, ceux qui étaient critiques, si vous voulez. Mais par contre, ceux qui ont été en faveur du livre ont trouvé, au contraire, ils ont été très pris par cette histoire. Ils ont signalé aussi la poésie. Ils ont signalé aussi quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'il y a de temps en temps des haïkus qui émaillent un peu le corps du texte. Il faut signaler d'ailleurs à cette occasion que, en même temps que Le peintre de l'éventail, Hubert Haddad a publié chez le même éditeur Zulmain Les haïkus du peintre de l'éventail. C'est un livre de qui fait 140 pages et qui n'est composé que de haïkus.
Alors on peut peut-être expliquer précisément ce que c'est qu'un haïku. Haïku, c'est un poème très court de 3 vers. Un vers de 5 syllabes, un vers de 7 syllabes et un dernier vers de 5 syllabes. Et à l'intérieur,
français.
En japonais.
Ah, pardon.
Et à l'intérieur, en japonais bien sûr. Et à l'intérieur de ce poème très court, il doit y avoir la transmission d'une espèce de sentiment très profond qu'on a éprouvé vis-à-vis de la beauté du monde ou vis-à-vis d'un événement qui a impressionné. Et donc on a l'impression, quand on lit un haïku, que c'est très simple. Et en fait, si on réfléchit, on arrive à quelque chose de profond. Donc, c'est un art de la suggestion.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et il me semble que dans le livre, il y a un effort pour faire une correspondance, établir une correspondance entre le jardin et les haïkus, hein, et de même entre les chapitres du livre peut-être et donc ces poèmes très courts qui sont caractéristiques de la poésie japonaise. Donc ça doit être très difficile à traduire.
Oui.
Je pense que tu vas nous en lire tout à l'heure que c'était vraiment très.
Alors, ce que je peux signaler, c'est que dans ce livre, donc les haïkus du peintre de l'éventail, dans lequel il y en a 4 par page, donc vous voyez que vous avez 500 haïkus peut-être. Ils suivent les 5, 7 et 5 syllabes.
Hein. Alors lui, il les a créés.
Si vous voulez, il n'y a pas besoin de les traduire. Quand vous les créez, vous suivez la règle. Quand vous les traduisez, c'est plus compliqué.
Par exemple, dans le livre, il y en a un au début à propos des oiseaux qui sont représentés donc sur ces éventails. Et le narrateur dit « J'ai appris à reconnaître et à peindre chaque volatile, bec et plume. L'encre est à peine sèche qu'il s'envole déjà. » Voilà. Mais dans quelques mots, on donne toute la force, enfin on essaie de transmettre toute la force de la représentation.
Oui, il y a un pouvoir de suggestion qui est très fort.
De la recréation, la peinture.
Oui, c'est comme ça qu'on en trouve un petit peu partout. C'est peut-être ce qui fait que on ne peut pas avoir avec ce livre une lecture comme avec d'autres où le récit est majeur. De ces livres dont je dis que quand ils sont bien faits, ils m'imposent de lire en pleine journée. Là, c'est une lecture que j'ai faite avec lenteur, de façon un peu traînante, justement à cause de ça, parce que le fil narratif n'est pas aussi tendu que dans d'autres romans. Et c'est peut-être ce qui gêne. De ce fait, lorsqu'on relit, on s'aperçoit que le rythme doit être différent avec ce livre-là. On peut avoir l'impression, dans un chapitre, que rien ne s'est passé, et voilà, on l'a lu, puis on passe au chapitre suivant. Et c'est dommage. C'est justement ces chapitres que l'on a envie de relire pour méditer. Il me semble que la première rencontre de Matabeille avec Ozaki est tout à fait comme ça. Il se passe rien du tout, mais il y a tout le livre dedans. À la page 42. Alors, tout à fait au début, Ozaki dit « Quand je n'y serai plus, il restera les éventails. » Et le jardin, ajouta Matabeille. Et le vent aussi, dit Ozaki. Avant de travailler ici, j'ai longtemps vécu dans un monastère. Les moines m'ont recueilli après le suicide de mes parents. Beaucoup de gens n'ont pas survécu à l'armistice. Comme vous, j'ai connu la dépression. Je buvais. Le deuil est une maladie. On voit déjà comment tous les personnages ont vécu quelque chose. Voilà. Et puis, il y a une description du jardin. Le souffle de tempête qui frappait les cloisons portait, en bruit de fond, le sourd vacarme de la mer. Malmenée par le vent, la cloche d'un temple ne cessait de sonner. À travers les branches, les nappes d'éclairs dessinaient des ombres grotesques sur l'écran des fenêtres. Matabeille tapotait sa pomme du bout d'un éventail reçu en présent. Ouvert, celui-ci déployait en quelques traits simples un coin de paysage d'une sublime harmonie, immédiate équation de l'œil à l'esprit, ne demandant ni calcul ni réflexion. On pouvait y lire, courte averse sur le coin gauche, ses caractères rapides, chant des mille automnes, le monde est une blessure qu'un seul matin soigne. La charpente de la baraque se mit brusquement à vibrer comme un tambour de cérémonie. La pluie succédait à la pluie, et des branches craquaient dehors. Matabeille songeait déjà aux réparations du lendemain. Le jardin intégrait le désordre à condition d'en gommer les plus brutaux effets. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il. « Pour les feuilles tombées, » c'est Ozaki qui parle. « C'est leur destin, mon ami. Je regrette de ne pas les avoir toutes peintes. Quelques-unes seulement. » D'une année, l'autre, quelques feuilles. Voilà si longtemps que je n'ai pas franchi les limites d'Atora, même pour me soigner. Mais un charme nous retient les uns et les autres. Ah, ce jardin contient pour moi tous les paysages. Voilà, là aussi, le petit...
On pourrait peut-être, je peux prendre la suite là, juste et après. Et
progresser parce que
ça se fait écho, ce qui se dit là.
En réalité, il y a plein d'échos.
Voilà.
Hein.
Et donc, tu as démarré par « Quand je n'y serai plus, il restera les éventails ». Et justement, non, ces éventails vont subir aussi des dégradations terribles. Et à la fin, enfin, pas tout à fait à la fin, mais presque, donc on retrouve... il me semble que ça fait écho, ce petit passage que je vais vous lire, vous allez voir. Décidé, alors il s'agit là de Matabeille, bien sûr, à la fin de sa vie, décidé à reconstituer feuille après feuille, page après page, la mémoire du vieux maître, Matabeille avait repris ses encres et ses pinceaux. Quelques stries fondues dans le bleu ou le gris ravivaient les perspectives, l'empreinte d'un ou deux traits par leur cursive inclinaison suffisait à lui indiquer, croyait-il, l'ordre et la direction d'un caractère entier. Ainsi, recréait-il maintes scènes et légendes avec l'application du délire, peu soucieux des dégradations de sa santé. La maladie, comme la folie, n'existait que dans le regard des autres et il n'y avait plus personne pour juger de son état physique ou mental. Voilà.
Et... Bon, je voudrais dire, pour les auditeurs qui n'ont pas lu le livre, bon, le vieux maître décède et c'est Matabeille qui va reprendre progressivement le jardin, enfin l'entretien du jardin. Et qui lui aussi va se mettre à peindre, à regarder les éventails, à s'imprégner, à apprendre. Et lui-même, ce Matabeille, à la fin, il va y avoir une grande catastrophe, alors terrible, qui va à la fois détruire tout, les pratiquement tout le monde. Matabé, je ne sais plus par quel hasard, a pu échapper à cette espèce de tsunami qui va tout détruire. Et il va se retrouver, lui, devant quelque chose de complètement détruit, et il ne va sauver, enfin retrouver que des éventails en un état endommagé. Donc il va essayer de les restituer à une forme première. Voilà, je dis ça pour les auditeurs qui pourraient avoir des difficultés à comprendre.
La possibilité exista à nouveau par son artisanat, c'était la seule ambition avant de céder à la place aux mouches et aux corbeaux.
Et à la fin, il demandera à son jeune disciple, Ian, de parachever le travail. Tu achèveras, lui dit-il, il lui fait promettre d'achever ce travail de restauration. Et c'est ainsi peut-être que renaîtra ce jardin dans une palpitation insensée d'éventails. Ce sont les derniers mots.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous rappelle que... Jean...
J'aurais voulu lire à la fin.
Je vous en prie. Vous pouvez
un ou deux haïkus.
Lisez un ou deux haïkus.
Alors, un qui est dans le livre et qui me paraît très intéressant par rapport à ce que doit être l'œuvre d'art, c'est-à-dire il y a l'idée, on n'en a pas parlé, que l'œuvre d'art, elle doit pas être complètement finie, qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu inachevé.
Oui.
Et il y a un haïku qui me semble le dire très bien. Pourquoi tout ranger ? L'arbre entre l'herbe et l'étoile, harmonieux vertige. Voilà. Donc un harmonieux vertige.
Oui. Oui, je vous en prie.
Voilà, donc... Avant de terminer l'émission, donc je vous donne quelques annonces de l'association Confluence, quelques informations. Donc le projet Une année de vive voix vient de se terminer cette semaine par une très belle restitution qui s'est passée aux Augustins, des trois classes du lycée qui étaient engagées dans le projet. Ensuite, nous serons présents sur la fête du centre social le 14 juin à partir de 14h à la Comète, avec des variations poétiques autour du thé. Et nous attendons le public pour partager avec nous ce moment. Et enfin, nous aurons peut-être une belle surprise à vous proposer à la rentrée de septembre. Nous la dévoilerons au public à ce moment-là. Voilà.
D'ici là, faites connaissance avec Hubert Haddad, lisez Le peintre d'éventail, lisez Palestine aussi, par exemple, lisez aussi
Opium Poppy,
voilà trois titres sans doute qui vous permettront déjà de faire connaissance avec Hubert Haddad. Au revoir et au mois prochain.